Bonjour, ici Eugénie Francoeur, coach en santé globale, directrice générale d'une petite fondation, ex-journaliste et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit à la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Mieux vivre aussi avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite la bienvenue sur le balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers ces balados, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse vous inspirer, vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que mon enthousiasme et ma croyance se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet qui me tient à cœur, avec lequel j'ai beaucoup expérimenté. Le régime hypotoxique, aussi appelé le régime ancestral ou le régime seignelais, cette façon de se nourrir est basée sur la qualité des aliments consommés plutôt que sur leur quantité. Il préconise les aliments biologiques et cuits à basse température ou crus. J'ai longtemps souffert de douleurs chroniques intenses et ce régime alimentaire m'a beaucoup aidé. Mes douleurs sont maintenant beaucoup moins présentes et handicapantes. C'est le docteur Jean Seignelay qui développe ce régime dans les années 80. Plus récemment, la scientifique québécoise Jacqueline Nagacé a poursuivi ses recherches sur l'alimentation hypotoxique. Son histoire est émouvante. Elle luttait alors contre l'arthrite et l'arthrose. Ses douleurs étaient si intenses qu'elles lui causaient de l'insomnie. Madame Nagacé avait presque perdu l'usage de ses doigts. Comme elle n'avait plus rien à perdre, elle décide alors de suivre ce régime. Les résultats sont stupéfiants. En 10 jours, la douleur disparaît et 16 mois plus tard, elle recouvre complètement l'usage de ses doigts. Elle raconte son histoire et présente l'alimentation hypotoxique dans son livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Ce livre a été traduit dans plusieurs langues. Elle a également publié « Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique », recettes gourmandes contre la douleur chronique et une alimentation ciblée pour préserver et retrouver la santé de l'intestin. Pour mieux comprendre l'alimentation hypotoxique, je rejoins Gabrielle Sanson. Gabrielle travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec Jacqueline Nagacé pour développer de succulentes recettes hypotoxiques. Gabrielle offre des cours de cuisine en ligne et du coaching alimentaire. Très tôt dans sa vie, Gabrielle a été initiée au principe de l'alimentation saine par sa mère naturopathe. Elle a fondé et géré pendant 5 ans le Kirlian Café, un restaurant spécialisé en alimentation vivante qui était situé dans le charmant village de Val-David, dans les Laurentides. C'est à travers l'enseignement que Gabrielle transmet le mieux sa passion et ses connaissances et ainsi avoir un réel impact dans la vie des gens. Bonjour Gabrielle, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir Eugénie, merci de m'avoir invitée.
Avant de plonger dans le vif du sujet du régime hypotoxique, je suis toujours un peu curieuse de savoir c'est quoi le chemin qui a mené mes invités là où ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le régime hypotoxique?
En fait, j'ai découvert le régime hypotoxique un peu par la bande parce que j'étais dans une démarche de santé personnelle pour moi-même, mais aussi je me suis mis à être tellement fascinée par l'alimentation que j'ai ouvert un restaurant en 2009. Puis j'étais vraiment dans l'alimentation vivante, l'alimentation végétalienne aussi. Donc j'avais un restaurant d'alimentation vivante dans les Laurentides à Val-David. Puis je donnais des cours, puis je me suis rendu compte que j'aimais tellement enseigner que là, finalement, c'est une cliente à moi, en fait, deux clientes à moi qui, à chaque fois qu'elles venaient à mes cours, elles me disaient, parce que tout le monde se présentait tout le temps quand elles venaient à mes cours, dans le temps que j'enseignais en personne, puis elles disaient, j'ai lu les livres de Madame Jacqueline Lagacé. Puis là, je me disais, ils doivent se mêler, ils doivent parler de Louise Lambert Lagacé. J'étais comme, c'est qui Madame Lagacé? Mais ça venait de sortir, ça, c'était en 2011. Puis c'était vraiment comme l'été, même printemps-été 2011. Fait que c'était tout, tout nouveau. Puis comme j'écoute pas la télé, j'avais pas vu Denis Lévesque. Je savais pas qu'il y avait comme une grosse histoire au Québec avec l'alimentation hypotoxique. Donc, finalement, Mme Lagacé cherchait quelqu'un pour écrire dans son deuxième livre de cuisine, en fait, son livre de recettes, parce que son succès de son premier livre était tellement grand que les gens disaient « Oui, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? C'est bien beau, le régime hypotoxique, mais qu'est-ce que je mange? » Puis comme Mme Lagacé n'est pas cuisinière du tout, bien, elle m'a demandé de participer, parce que l'alimentation vivante fait beaucoup partie du régime hypotoxique, entre autres. Dr. Seignalet, qui a inventé l'alimentation anti-inflammatoire hypotoxique, qui est... Il préconisait beaucoup de manger le cru, plus cru possible. Donc, c'est pour ça que je pense que Mme Lagacé était intéressée à m'avoir. Finalement, j'ai lu le livre Mme Lagacé, puis je me suis informée sur le sujet, puis ça a été comme... Ça confirmait en science ce que, dans le fond, on savait depuis longtemps en naturopathie ou en même l'alimentation vivante. Puis moi, je me suis rendu compte que j'étais peut-être allée trop loin en mangeant cru 100%, en étant végétalienne. Donc, ça a pu mettre un peu plus de science dans l'approche que j'avais, puis confirmer certaines choses.
Pour que les gens comprennent de quoi on parle, est-ce que vous pouvez m'expliquer les grandes lignes de c'est quoi l'alimentation hypotoxique?
Oui, bien l'alimentation hypotoxique, c'est une approche alimentaire anti-inflammatoire. Il y en a plusieurs, hein, on sait. Oui. Le régime paléolithique, par exemple, en est une approche anti-inflammatoire aussi. Il y en a qui vont faire aussi cétogène pour ça, l'alimentation cétogène. Il y a plusieurs sortes de cétogène, selon moi, là, dans le sens qu'on peut manger ou de différentes façons en ayant le régime cétogène. Quand on parle d'alimentation hypotoxique, c'est le docteur Jean Seignalet, qui est un docteur en France et qui est rhumatologue, là, qui se spécialisait avec des gens avec des maladies d'inflammation puis chroniques. Puis il a émis l'hypothèse que notre mode de vie, notre alimentation n'était pas notre alimentation moderne n'était pas adaptée à notre génétique d'une certaine façon. C'est un petit peu l'approche paléo d'une certaine façon, mais avec sa vision à lui, c'est comme si ces deux mondes-là, le paléo aux États-Unis puis en Europe, en France, le docteur Seignalet avait sa propre démarche, puis il a dit ben notre code génétique d'Homo sapiens qui a 200 000 ans environ n'est pas adapté à la culture des céréales et à l'élevage des bovins qui a à peu près 10 000 ans dans notre histoire. Donc tu sais, on peut dire 10 000 ans c'est beaucoup, mais c'est rien, c'est un clin d'œil par rapport à toute notre évolution en tant qu'humain et puis en tant que microbiote aussi. On pourrait parler de ça aussi. Dans le temps du docteur Seignalet, on n'en parlait pas tant que ça, puis c'était les années 80-90. Mais donc, c'est ça. Lui, il a émis cette hypothèse-là, puis il s'est dit, bon, je vais le tester sur des patients. Il a testé ça sur des milliers de personnes avec toutes sortes de pathologies différentes. Là, son livre « L'alimentation, la troisième médecine » relate de toutes ses expériences et c'est très, très documenté. Puis, il y a eu des résultats incroyables. Donc, en l'éliminant, en gros, là, produits laitiers animaux, tous. Puis là, souvent, les gens, ils font l'erreur, ils pensent, ah, c'est sans lactose. Non, c'est pas sans lactose, c'est sans produits laitiers. Puis, oui, c'est ça. C'est pas juste de boire du lait sans lactose. Même d'ailleurs, c'est pas le lactose le problème, mais ça, c'est
la caséine, souvent, non?
Oui, c'est ça. La protéine bovine qui est problématique. Donc, le lactose, c'est le sucre dans le lait. Mais c'est pas ça qui va être nécessairement le plus problématique. Puis, toutes les céréales de blé et apparentés. Donc là, on parle évidemment du blé, mais aussi le camu, le seigle, l'épeautre, toutes les céréales qui vont avoir du gluten, entre autres. Puis aussi, on va faire attention avec des céréales comme le maïs, par exemple, qui n'a pas nécessairement de gluten comme le blé, la même sorte de gluten, mais qui va pouvoir créer à la cuisson, puis c'est pour ça qu'il s'intéressait tant à l'alimentation crue, c'est qu'à la cuisson, il y a une réaction chimique qui se crée qui s'appelle la réaction de Maillard. Je veux pas que les éditeurs viennent tout mélanger, là. J'essaie de simplifier ça. Mais c'est que quand on cuit les aliments, on crée des toxines. C'est un petit peu pour ça que des fois, dans le régime cétogène, je suis comme, oui, mais faites attention, c'est pas cool de manger du bacon grillé là, quand ça vient noirci, parce que c'est toxique. Puis ça, on le sait depuis longtemps. Je me souviens encore des émissions de découverte quand j'étais enfant, qui en parlait, là, le barbecue, c'était, oui, c'était toxique. C'était pas nouveau, là.
Mais c'est bon, ce petit croquant-là.
Oui, c'est ça. Le petit côté croquant grillé qu'on aime, malheureusement, là, comme les patates frites, les beignes, les croissants, c'est la réaction de Maillard. C'est cette caramélisation-là de la protéine avec un sucre ou un lipide qui va créer cette toxine-là, malheureusement pour nous. Donc, c'est ça qui va créer de l'inflammation dans le corps. Puis là, on pourrait en parler super longtemps, là. Genre, je l'explique beaucoup en détail dans mes cours, mais c'est ça qu'on essaie d'éviter. Donc, produits laitiers, céréales de blé apparentées et le sucre raffiné.
Et le point commun de tout ça, c'est la création de glycotoxines, je comprends bien. Donc, la glycotoxine, c'est pas juste qu'on cuit les viandes à haute température. C'est aussi vrai qu'on cuit le blé à haute température.
Oui, exactement. Le blé, dans le fond, il y a des glycotoxines dans plein de choses qui contiennent des protéines, entre autres les amandes. Les gens suspectent pas souvent ça, mais les amandes grillées, c'est extrêmement riche en glycotoxines. Donc, c'est hyper pro-inflammatoire.
Comment on fait pour savoir si on est sensible aux glycotoxines ou si on ne l'est pas? Parce que les amandes, on est tous, a priori, on pense que c'est un aliment bon pour la santé. Est-ce que c'est inflammatoire pour tout le monde ou est-ce que c'est inflammatoire pour certaines personnes?
En fait, la glycotoxine en soi, c'est une toxine que le corps n'est pas capable de gérer. La seule chose, c'est que, dépendamment de votre génétique, puis dépendamment aussi de votre mode de vie, vous allez avoir plus ou moins une bonne porosité, un bon intestin, un bon système digestif. Mais on parle, tu sais, la santé, on le sait, même Hippocrate le disait, les maladies viennent de l'intestin, mais c'est la source. Donc, si on mange des aliments qui nous nuisent, qui pourraient nous nuire, mais qu'on est capable de les éliminer avant qu'ils rentrent dans notre corps, parce que dans le fond, de la bouche à l'anus, c'est l'extérieur de notre corps d'une certaine façon. Hein. Faut vraiment comprendre que c'est une fois que ça passe la barrière intestinale, qu'on absorbe ces aliments-là, que là, ça vient vraiment dans notre sang, dans notre lymphe, dans nos cellules. C'est là que c'est problématique. Donc, si quelqu'un aurait un intestin impeccable, comme un petit bébé, ça ne serait pas problématique. Le problème, c'est qu'avec l'âge ou avec notre mode de vie, on a plus ou moins à différents degrés un intestin poreux. Puis là, c'est là que ça va causer des problèmes. Après ça, ben, il y en a qui vont être mieux équipés pour gérer ces toxines-là dans leur corps. Puis selon vos prédispositions génétiques, vous allez réagir ou pas. Puis là, je viens de lancer un nouveau programme de coaching, puis je parle souvent de l'analogie du verre d'eau plein. Tu sais, si votre verre d'eau de toxicité n'est pas plein, ben, vous n'en rendrez pas compte, puis vous allez manger des amandes, puis tout va bien aller. Mais si vous êtes comme votre verre de toxicité est plein, bien, ça va déborder, puis oui, vous allez réagir. Puis on se demande, OK, bien, les amandes. Oui, les amandes, c'est excellent. C'est vraiment le fait de griller que ça devient comme n'importe quoi. Ça devient un aliment qui peut être pro-inflammatoire. Puis après ça, bien, si on regarde à quel point les gens passés 50, 60 ans ont mal partout, bien, je vous dirais que ça affecte un bon pourcentage de la population. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est que les gens, ils disent... Ils pensent que c'est normal d'avoir mal partout en vieillissant. Donc, tu sais, ça affecte normalement un bon pourcentage de la population. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, non, mais c'est intéressant parce que moi, une de mes croyances, puis comme coach santé, c'est le message que je passe, c'est qu'on peut vieillir sans avoir mal, sans être diminué, en restant alerte, en restant mobile. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on atteint 50, 60, 70 ans qu'on est obligé d'avoir mal.
Absolument, absolument. Puis, tu sais, l'alimentation, c'est un aspect. Il y a vraiment le sommeil, il y a l'exercice, il y a aussi notre mental, nos relations. Ça fait partie, tout ça, de notre santé. Mais l'alimentation, c'est un point tellement important, puis sur lequel on a beaucoup de pouvoir aussi, hein, parce qu'on choisit ce qu'on mange.
Exactement. Oui, non, effectivement, on a beaucoup de pouvoir ce qu'on met dans notre corps, finalement. Hippocrate est un visionnaire, sans le savoir, parce qu'il parlait déjà du microbiote, qu'à l'heure aujourd'hui, on a la science pour montrer, pour prouver à quel point le microbiote, c'est bon. Des fois, c'est pas juste le deuxième cerveau, ça peut être le premier aussi.
Absolument, absolument. Il y a plus de neurotransmetteurs qui sont produits dans le microbiote, dans l'intestin que dans le cerveau. Non, puis quand on pense à ça, bon, je ne sais pas si Hippocrate était conscient des bactéries, je ne pense pas, mais il était conscient que l'intestin, c'était vraiment la base de la santé. Puis c'est vrai qu'il est, oui, c'est par rapport à toute son approche, que ton aliment soit ton médicament, puis que les maladies commencent dans l'intestin, je veux dire, il a amené beaucoup de choses. Puis on s'entend, il est considéré comme le père de la médecine. C'est le serment d'Hippocrate que les médecins,
oui,
que les médecins font. Là. Okay. Ouais.
Quand on touche au blé puis au maïs, c'est encore probablement plus vrai pour le blé. C'est tellement au cœur de l'alimentation en Amérique du Nord, en Europe. On pense que les gens mangent du blé depuis tout le temps, puis que c'est comme ça que les êtres humains se sont perpétués. C'est difficile d'aller défaire cette croyance-là.
Oui, c'est difficile. Il faut comprendre que, de un, on en mange beaucoup plus qu'avant. Les allées d'épicerie sont... C'est du blé, du maïs, du soya, puis du sucre. Là. On mange de plus en plus transformé. Donc, la révolution industrielle nous a beaucoup nuit. Après ça, le blé a été énormément hybridé. Donc, le blé n'est plus ce qu'il était. Donc, ils l'ont hybridé pour qu'il y ait plus de gluten, entre autres, pour que ça fasse du pain extra moelleux, puis que... tout ça. Puis là, ben c'est ça. T'sais, avant, les gens mangeaient, tu sais, quand on parle là, il y a 200 ans, ils mangeaient beaucoup plus proche de la terre. Tu sais, ils mangeaient des légumes, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient... Là, maintenant, c'est toast le matin ou céréales le matin, sandwich le midi, pâte le soir. Tu sais, j'exagère, mais...
C'est pas loin. C'est...
Non, c'est ça. C'est... J'exagère, puis j'exagère pas. Je veux dire, je parlais de ça récemment. Je me disais, aïe, je me souviens quand j'étais au secondaire, quand les pizzas pochettes avaient sorti. Là, tout le monde mangeait des pizzas pochettes. Je sais pas pourquoi, c'est comme c'est du poison en petite pochette. Là, on mange empoisonné, puis après ça, on bouge plus, puis on est devant nos ordinateurs, puis fait que c'est ça. Notre mode de vie est complètement dénaturé. Donc, c'est normal que... Puis ça, c'est une approche que j'aime beaucoup du docteur Tom O'Brien, qui, lui, est vraiment dans cette même lignée-là, qui travaille en médecine fonctionnelle aux États-Unis. Il dit, c'est pas normal, c'est usuel. Tu sais, d'arrêter de penser que quand on utilise le mot normal pour dire que c'est correct, que ça devrait être comme ça, mais non, c'est usuel parce que une grande majorité de la population est atteinte de maladies d'inflammation chronique, puis je veux dire, puis pas juste d'une, puis deux, là, souvent, c'est des comorbidités là, qu'on parle.
Oui, non, c'est assez élevé. Je pense que c'est 60 % des Américains qui ont au moins un problème de maladie, une maladie chronique, et plusieurs en ont deux, puis trois, et encore plus.
Oui, exact. Non, c'est ça. Donc, je pense que mon message, par rapport à ce que je fais depuis, ça fait plus que 10 ans que j'enseigne maintenant, puis c'est vraiment de dire que c'est possible d'arrêter de souffrir. C'est possible grâce à l'alimentation. Mais après ça, c'est une question de choix personnel.
Oui, d'ailleurs, c'est possible. C'était le point de départ de Jacqueline Lagacé qui a écrit « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Elle-même, elle souffrait beaucoup, puis c'est une scientifique.
Elle souffrait énormément, Madame Lagacé. Je veux dire, c'est ce qui l'a amenée à... Tu sais, quand les gens souffrent, on est prêt à tout essayer. Elle ne dormait plus la nuit tellement elle avait mal de douleur. Les anti-inflammatoires ne fonctionnaient plus. Donc, elle est tombée par hasard sur les recherches du docteur Signalet, puis elle s'est dit « j'ai rien à perdre ». Mais en 10 jours, elle avait plus de douleur. 10 jours, quand c'est quelqu'un qui ne dormait plus la nuit. Fait que tu sais, après ça, quand les gens... Des fois, les gens m'approchent puis me disent « ah, c'est pas prouvé scientifiquement ». Bon, premièrement, je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'études à double aveugle que c'est pas prouvé, là. Il y a vraiment...
La meilleure preuve, c'est de l'essayer aussi.
C'est ça, exactement. Puis c'est différent, c'est difficile. On peut pas... Bon, premièrement, des budgets, il n'y en a pas vraiment pour faire des études sur l'alimentation. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Sauf de vous dire de manger du bio, de pas manger de blé, il n'y a pas d'argent à faire là-dessus. Puis deuxièmement, c'est impossible d'avoir une étude à double aveugle là-dessus. Je veux dire, vous savez ce que vous mangez. Donc, ça pour dire que... Et oui, il y en a des études qui sont sorties maintenant, tellement contentes. Je veux dire, Dr. Terry Walls, maintenant, elle a sorti des résultats d'études cliniques. Enfin, elle a eu $1 million de fonds pour faire ses recherches. C'est pas énorme en recherche, mais au moins, elle a eu. Puis, après ça, il y a des milliers et des milliers et des milliers de témoignages.
Ben, juste l'histoire de Dr. Terry Walls, j'ai fait un podcast, un balado sur elle. Son histoire est à faire pleurer. Moi, quand je l'ai entendue pour la première fois, c'est comme sclérose en plaques, en fauteuil roulant, qui recommence à faire du vélo. Là, c'est assez, c'est spectaculaire.
Fou. Fait que les gens qui veulent, il y a de l'espoir. Les gens qui, c'est ça le message, c'est que oui, c'est possible. C'est pas nécessairement facile. C'est bien plus facile de manger des Cheerios le matin, hein?
Oui.
Mais puis des sandwichs à midi. Mais ça peut être bon, ça peut être agréable. C'est un... Puis mes clients, bien honnêtement, ils me disent souvent, je reviendrai jamais en arrière. Parce que la santé, la vitalité, avoir un meilleur sommeil et plus de douleur, je veux dire, quoi de mieux demander?
Non, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai suivi quelques-uns de vos cours là, en ligne. Effectivement, c'est absolument délicieux. Et le régime hypotoxique, moi, dans une certaine mesure, ça a changé ma vie parce que j'avais tout le temps des douleurs chroniques. Donc, je sais que ça marche. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, d'ailleurs.
Oui. Non, mais moi aussi, je le suis. Là. Je ne fais pas juste l'enseigner. Je le suis. Puis moi, je ne déroge pas. Je n'ai pas mangé de gluten, de produits laitiers depuis une dizaine d'années. Puis je reviendrai jamais en arrière, je m'en ennuie pas, mais il faut vraiment avoir un switch dans notre tête. Puis, tu sais, les gens peuvent le faire à leur propre rythme. Mais à un moment donné, ça devient que faut vraiment dire ça n'existe plus dans ma vie. Puis, je mange autre chose. Puis, c'est bon. Puis, je veux dire, moi, mes amis sont au courant, ma famille est au courant. Quand je vais au restaurant, j'appelle d'avance. C'est possible de le faire. C'est possible de ne pas avoir l'impression de se priver. Puis, comme je disais, d'avoir de l'énergie. Je veux dire, à chaque fois que je dis à quelqu'un, quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie, je leur explique. Et à chaque fois que je dis ce que je fais dans la vie aux gens, que j'enseigne l'alimentation anti-inflammatoire, ah, ça serait bon pour moi, ça. Tout le monde me répond ça. Ça veut dire que tout le monde a mal partout. Souvent, c'est les mains. Ils me disent, ils bougent leurs mains. Ils disent, ah, ce serait bon, ça, pour moi. Bien, c'est ça. Après ça, est-ce que vous êtes prêts à faire les changements? Souvent, les gens ne le sont pas, bien honnêtement. Mais c'est malheureux. L'être humain, souvent, a besoin de souffrir vraiment beaucoup pour faire des changements.
Oui, non, tout à fait. On a parlé de ce qu'on ne mange pas, donc on élimine le gluten, les produits laitiers. Qu'est-ce qu'on mange?
On mange beaucoup de légumes, on mange des fruits, des légumes, des pousses, des germinations. On peut être végétarien, végétaliste si on veut, mais c'est pas obligatoire. On peut manger aussi des viandes. Je recommande à ce moment-là de manger des viandes de qualité.
De pâturage.
De pâturage, idéalement. Évidemment, c'est très difficile au Québec. Par exemple, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas accès aussi facilement à des viandes de pâturage. Je veux dire, le poulet de grain au Québec, on pense encore que c'est hot de manger que le poulet mange du grain, mais non, c'est pas cool.
Non, c'est pas cool, pas
non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, des poulets qui mangent dehors, là, des vers, puis tout ça, il y en a pas tant que ça. Mais, oui, idéalement de pâturage. Puis ça, les gens le savent pas souvent, mais la même chose pour les poissons, c'est idéal qu'ils soient sauvages et non d'élevage. Même si c'est biologique, c'est pire un poisson biologique qu'un poisson sauvage, parce que ça a été exposé à certains produits, ils mangent la moulée aussi, donc c'est pas...
Donc, le saumon biologique ou les autres poissons biologiques, on est mieux d'aller vers les versions sauvages.
Absolument. Puis au Québec, du saumon de l'Atlantique, c'est toujours d'élevage. Donc ça, les gens ne savent pas non plus. Mais il faut regarder sur les boîtes. Si c'est pas marqué sauvage, c'est que c'est pas sauvage.
OK. Mais si on va à la poissonnerie, puis qu'il y a du saumon bio, puis qu'il y a du saumon sauvage, on va vers le sauvage.
Exact, okay. Exact.
Un des points importants, et c'est là que vos cours de cuisine sont vraiment intéressants, c'est la cuisson. Mm. Parce qu'on a beau savoir quoi manger, on apprend qu'il faut cuire à basse température. Ça ressemble à quoi cuire à basse température? Comment on fait ça?
Bien, cuire à basse température, c'est ça. Les gens, souvent, ils sont un petit peu mêlés avec ça. On peut encore faire des choses à la poêle, mais tu sais, au lieu de mettre du beurre, on oublie le beurre, on peut mettre du ghee si on veut, qui est du beurre clarifié, ça c'est conforme, c'est le seul produit laitier qui est conforme.
Pourquoi il est conforme celui-là?
Pas de lactose, puis pas de caséine. C'est seulement la matière grasse. Donc on élimine en faisant le ghee. Donc les Indiens, eux, cuisinent avec ça le ghee. Oui. Hein, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de la cuisine indienne. C'est vraiment du beurre clarifié. Donc on y enlève tout son lactose et tout sa caséine. Et non seulement c'est conforme, c'est thérapeutique.
Oui. En médecine ayurvédique, c'est utilisé comme un médicament.
Oui, exactement. Donc, bon, là, idéalement, on ne cuirait pas dans un gras parce que ça fait monter beaucoup la température si c'est de la viande, par exemple. Donc, on peut cuire soit en mettant de l'eau, du bouillon. Ça va être dans la poêle. Tu sais, je fais souvent des caries, par exemple, des caries de coco, des choses comme ça. C'est vraiment facile de cuire dans un bouillon. Sinon, on peut cuire vapeur. C'est pour ça que j'adore le vitaliseur de Marion, qui est comme un outil de cuisine incroyable. C'est un investissement, on ne se le cachera pas, mais je l'utilise tous les jours.
Moi aussi, je l'utilise tous les jours, mais la plupart des gens ne savent pas c'est quoi un vitaliseur de Marion. Alors, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, s'il vous plaît?
Oui, oui, oui. Le vitaliseur de Marion, en fait, ça, c'est encore Madame Lagacé, parce qu'on est devenus amis avec le temps. Puis, à un moment donné, elle m'a appelé, puis elle me dit, Gabrielle, il faut absolument que tu essayes ça, le vitaliseur de Marion. Je suis comme, oh, qu'est-ce qu'elle me parle? C'est quoi cette affaire-là? Mais je fais confiance, Madame Lagacé, elle a une bonne approche critique, puis je veux dire, elle n'est pas aussi excitée que moi avec les outils de cuisine, quoi qu'elle peut être bien, elle aime ça bien manger. Puis là, j'étais en voyage quand elle m'a parlé de ça, je disais, OK, je vais regarder ça quand je reviens. Puis là, j'étais là, c'est quoi cette affaire-là? Ça vient de la France. C'est lequel je crois pas un chaudron, c'est comme un cuit-vapeur, mais comme qu'on met sur la cuisinière. C'est pas un cuit-vapeur Black & Decker en plastique, là. Donc, c'est fait en acier 18-10, je pense. C'est vraiment acier chirurgical. Et c'est vraiment dans la conception de ce chaudron-là que tout son intérêt, c'est que ça a été construit là, avec, je ne sais plus c'est quoi, Marion avait une équipe là, pour faire ça, mais il y a le nombre d'or là-dedans, les trous ont une certaine grosseur, puis le couvercle aussi est en dôme. Donc, la vapeur, quand elle passe, elle va cuire l'aliment non seulement à basse température 95 degrés Celsius. Normalement, la vapeur d'eau est à peu près 110 degrés Celsius. Donc, c'est de la vapeur d'eau, ce qu'on appelle pour le vitaliseur de Marion. Parce que le chaudron est le premier chaudron où on met l'eau, il est très haut. Donc, le temps que la vapeur monte et touche l'aliment, elle a eu le temps de refroidir. Okay. Puis, le couvercle en dôme fait que la vapeur ne retombe pas sur l'aliment pour comme tout le laver de ses minéraux, ses vitamines. Et aussi, sur le site de Marion, il y a des informations, mais elle explique qu'elle a fait des tests. Et contrairement à la cuisson traditionnelle ou même cuisson vapeur ordinaire, ça ne détruit pas certaines vitamines, entre autres comme la vitamine C, qui sont sensibles à la chaleur. Sincèrement, je dois dire que Mme Lagacé avait raison. Tout est meilleur là-dedans. J'ai fait une vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Là.
Je mettrai le lien.
Oui, le lien de ma vidéo sur YouTube, où est-ce que j'explique vraiment, je le montre, puis j'explique les outils, puis comment l'acheter, parce que les gens, ils sont comme, où je l'achète? Mais c'est ça, ça s'achète en France. Mais c'est simple, puis c'est pas compliqué, puis c'est vraiment un outil de cuisine que j'utilise tous les jours. Puis j'utilise ça aussi pour réchauffer des plats. Oui, j'ai pas de micro-ondes. Juste à mettre un plat en Pyrex dedans, là, les plats que j'utilise pour mettre mes restants, je fais juste le mettre directement dans le tamis du vitaliseur. Normalement, c'est à peu près 10 minutes à vapeur, puis ça fait que ça colle pas, on n'a pas besoin d'ajouter d'eau, pas de vaisselle, c'est vraiment génial.
Oui, non, c'est vraiment... Non, je suis une vendue. Moi aussi. On peut cuire la viande aussi là-dedans. On peut cuire des poulets entiers.
Oui, 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 je fais mon poulet entier là-dedans. C'est sûr que votre poulet va être moins sexy parce qu'il ne sera pas comme un petit poulet rôti barbecue Saint-Hubert.
Oui.
Mais c'est ça, il va être comme blanc, mais on l'assaisonne. Puis mes clients, ils me le disent, ils trouvent ça bon. Puis les légumes là-dedans, tu sais, comme... Qui se fait des artichauts dans vie? Mais nous, on s'en fait tout le temps parce que... C'est simple là-dedans, on fait juste couper la terre, on les met à l'envers, c'est 30-35 minutes. Mm-hmm. Mais c'est simple, l'artichaut c'est un super aliment, c'est bon pour le foie, il y a tellement de propriétés. Nous, un de nos préférés c'est le chou-fleur là, dans le vitaliseur, c'est 7 minutes, c'est fou. T'sais. Je mangeais pas de chou-fleur avant, plein de choses que je mangeais pas vraiment, puis maintenant je mange ça là-dedans.
C'est vrai que c'est bon. Donc là on a parlé de cuire dans la poêle.
Oui, avec des liquides.
On a parlé aussi du vitaliseur. On peut aussi cuire à la mijoteuse et cuire au four à basse température.
C'est ça.
Tu peux nous en parler un peu?
Oui, la mijoteuse, pour moi, c'est comme une alliée pour cuisiner hypotoxique parce que là, on va cuire à basse température. Ça nous permet de sauver du temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon cours, la mijoteuse au service de la santé. Puis des fois, les gens m'approchent, me disent « Oui, mais ça goûte tout le temps la même chose, la mijoteuse. » Mais c'est parce que vous avez des mauvaises recettes. Mais pour être honnête, ça m'a pris une année à monter les recettes dans mon cours de mijoteuse parce que je voulais vraiment qu'elles soient bonnes. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mon cours de mijoteuse.
Oui, 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 j'ai fait, puis c'est bien réussi. J'aime beaucoup la soupe de poulet thaï, là. Puis les côtes levées à la sauce aux pommes.
Oui,
c'est mon fils, c'est un grand succès avec mon fils.
Oui, c'est un grand succès avec les hommes, d'habitude. Oui, c'est important. Moi aussi, je cuisine pour mon homme aussi, puis il faut avoir des recettes qui sont bonnes. Mais c'est ça. Donc, la mijoteuse, pour moi, c'est une alliée. vraiment bien pour cuisiner à basse température. Puis pour nous faire sauver du temps, vous pouvez mettre ça le matin, puis là, vous partez travailler. Là, avec COVID, le monde travaille un petit peu moins à l'extérieur. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait ce cours-là. Sinon, oui, on peut mettre le four à 230 Fahrenheit, si on veut. C'est possible aussi. Okay. Donc, tout est possible. Puis, tu sais, les gens qui n'ont pas de mijoteuse, bon, une mijoteuse, ça coûte pratiquement rien hein, au Québec. On peut se trouver une mijoteuse en 30-40 $ là, de qualité. Non. Oui, mais sinon, si vous avez une cocotte, vous pouvez faire les mêmes recettes au four. C'est sûr que la mijoteuse, elle a comme cet aspect-là d'être quand même très sécuritaire. Hein.
Sécuritaire puis économique aussi.
Économique.
Faire chauffer une mijoteuse 8 heures, c'est pas si cher, mais faire chauffer le four pendant 8 heures.
Exact. Ouais. Exact. Mm-hmm. Ça libère, c'est ça. Ça libère. Tu sais, je trouve que c'est. Il y a plein de raisons là, pourquoi la mijoteuse, c'est le fun. C'est comme ça libère de l'espace dans notre four si on fait plusieurs mets en même temps. Mm-hmm. Je recommande aux gens de s'acheter une grosse mijoteuse pour pouvoir faire des restants. Parce que l'idée, quand on change notre alimentation, je pense qu'une des choses à être vraiment comme alerte au début, c'est d'essayer de ne pas être mal pris. Parce que c'est quand on est mal pris qu'on va faire des écarts. Donc, d'avoir des plats congelés, de mijoteuses que vous avez fait à l'avance, de peut-être vous inscrire à une livraison de panier bio, d'avoir des légumes, d'avoir aussi mon cours de déshydratation, c'est un petit peu ça. C'est d'avoir des collations, des wraps, que ce soit peu importe ce que c'est, mais que vous ayez des alternatives sans gluten, qui sont santé pour vous dépanner, que vous avez dans l'armoire, dans votre sacoche, dans le sac d'école des enfants, peu importe, mais d'avoir toujours quelque chose pour ne pas être mal pris.
Pour ne pas être mal pris, OK. Là, vous avez parlé des légumes, vous avez parlé de l'importance d'en manger cru autant que possible. On a parlé de la viande, donc basse température, les poissons aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les grains? Parce qu'il existe des tonnes de pain sans gluten, de biscuits sans gluten. Est-ce que c'est une compensation pour remplacer ce qu'on ne mange plus avec du blé. Puis au niveau alimentaire, quelle valeur ça a?
C'est sûr que moi, je ne suis pas nutritionniste puis je ne peux pas vraiment me positionner là-dessus. Mm-hmm. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'en étudiant beaucoup de docteurs, les approches autant cognitives que les céréales, il y a beaucoup de gens qui s'entendent pour dire que oui, ça a sauvé la planète de la famine, peut-être, là, mais c'est pas notre alimentation ne devrait pas être basée maintenant sur des céréales. C'est pour ça qu'il y a toutes ces approches-là. Il y a même des approches carnivores maintenant. Je suis pas nécessairement pro ces approches-là, mais je pense que c'est intéressant. Je pense que, sincèrement, puis ça, je le répète de plus en plus, si c'est la santé qui est notre objectif, on ne peut pas être dogmatique et on doit avoir l'esprit ouvert. Et c'est pour ça que je m'instruis sur toutes les nouvelles approches. J'ai commencé le livre de la diète carnivore, je ne l'ai pas fini. Mais tu sais, je me dis, oh, ben, quoi là-dedans? Puis le point de la diète carnivore, ce que je trouve intéressant dans l'approche, c'est que c'est pas juste la chair, c'est pas juste le steak qu'il faut manger, c'est les organes. Puis Dr. Terry Walsh, elle en parle tellement. C'est le foie, c'est tous les organes de l'animal qui sont les parties les plus nutritives.
Ouais.
Donc, tu sais, il faut garder l'esprit ouvert. Puis au niveau des grains, ça l'a sauvé de la famine. Mais quand j'ai développé mon cours pain-pâtisserie sans gluten et hypotoxique végétalien, il y a un titre assez long, là, c'est parce qu'il est végétalien aussi, il n'y a pas d'œufs dedans, parce que beaucoup de mes étudiants sont intolérants. C'était pour remplir un besoin de mes étudiants qui avaient besoin d'une substitution. Mais ça reste que le pain, c'est pour remplir un besoin émotif. C'est pas thérapeutique. C'est, oui, il y en a qui vont dire, OK, ben on va avoir des carences. On pourrait avoir des carences en vitamine B, oui, évidemment.
Si on mange du foie de bœuf, il n'y a pas ben de chance d'avoir des carences en vitamine B.
Exact. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut aller faire, tu sais, il faut aller vraiment boire. Mais bien honnêtement, oui, il y a d'autres céréales qui sont comme moi, personnellement, j'en fais du pain. Je fais du pain au levain avec des céréales sans gluten, millet, sorgho. Et il est excellent. Mon mari qui ne mange pas seulement sans gluten, il devrait, il a le colon irritable, mais j'ai pas réussi. Il dit que c'est dans son sang, dans ses gènes, il y a une partie italienne. Okay. C'est dur à changer. Mais tout ça pour dire qu'il dit que c'est le meilleur pain que j'ai jamais mangé. Il capote sur le pain ou le vin sans gluten. Donc, ça me fait faire bien du pain parce qu'il en mange. Mais c'est facile. Puis, c'est ça, il prend goût. Puis, tu sais, je pense que mes cours ont eu beaucoup de succès dans les dernières années parce qu'avec la pandémie, les gens se rendent compte qu'ils doivent reprendre leur pouvoir de un et leur autonomie alimentaire. Donc, des cours de lactofermentation, des cours de déshydratation, de revenir aux sources, puis de faire nos propres conserves, puis de faire notre pain, ça peut faire partie d'un mode de vie équilibré.
Oui, non, tout à fait. Puis faire le pain, si on mange plein de légumes, puis on est en santé, puis on prend soin de tout le reste, la tranche de pain, de temps en temps,
Exactement. Ouais. C'est ça. Parce que après ça, tout le monde est différent. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas super bien sur les hydrates de carbone en général, à part les légumes. Mais tu sais, tout ce qui est céréales, j'ai envie d'aller me coucher après manger ça. Puis on le sait, ça fait monter la glycémie rapidement, le riz, tout ça. Donc, c'est pas interdit. C'est une des approches alimentaires anti-inflammatoires qui permet les céréales. Donc, profitez-en. Pour ceux qui veulent en manger, parce que la plupart des autres que je connais, les céréales sont interdites au complet.
C'est vrai que dans le paléo, dans la version que j'ai apprise, il y a du riz, un peu de riz, un peu de quinoa parfois aussi, des pommes de terre. Ça, c'est pas des céréales, mais quand même.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui. Donc, mais c'est ça. Paléo strict, là, souvent, ils ne mangent pas de céréales du tout, pas de légumineuses. Tandis que je pense que le régime hypotoxique est quand même un régime qui permet un peu plus. Je dirais la seule grosse différence, c'est au niveau des températures de cuisson. Puis je trouve que c'est une lacune beaucoup aux approches américaines anti-inflammatoires.
Je suis tout à fait d'accord que l'hypotoxique, le côté toxique n'est pas assez mis de l'avant.
J'ai vu récemment que, justement, Tom O'Brien, là, qui a écrit The Autoimmune Fix, qui parle beaucoup des maladies inflammatoires, puis qui est comme anti-gluten, a parlé de la réaction de Maillard dans son dernier livre. J'étais comme, wow, ça, au niveau du cerveau, là, you can fix your brain. Mm-hmm. Puis j'étais comme, ah, enfin, quelqu'un aux États-Unis qui en parle, tu sais, puis qui disait que c'était toxique, puis disait le barbecue, c'est toxique, tout ça. Donc, puis c'est après ça, là, sincèrement, je veux pas faire peur au monde. Faut pas venir fou avec ces affaires-là, tu sais. Si un moment donné, vous allez au restaurant, puis je sais pas, vous mangez quelque chose, puis ça a été grillé, c'est pas la fin du monde. Sauf que si vous avez une intolérance non cœliaque au gluten, ça veut dire que vous avez des anticorps, exemple, qui peuvent être détectés dans votre sang, que vous avez une réaction auto-immune, comme des gens qui ont, exemple, Hashimoto. Souvent, c'est de plus en plus prouvé que c'est en lien. Une intolérance au gluten, c'est qu'il y a une mimicry, là, qu'on appelle en anglais, là, il y a comme la protéine de gluten est similaire à la protéine dans la thyroïde, et le corps va se mettre à attaquer son propre tissu parce qu'il se défend du gluten et par le fait même de son propre tissu. C'est la même chose avec des maladies cognitives, entre autres, puis il associe ça aussi avec la sclérose en plaques. Tout ça pour dire que si vous avez une intolérance comme ça ou une maladie auto-immune, là, tu sais, je disais tout à l'heure, faut pas capoter avec ça. Là, je parlais de la cuisson à haute température. Mais au niveau du gluten, on peut pas faire l'alimentation anti-inflammatoire à moitié. On peut pas, je vais faire des écarts. Je disais récemment, là, on parle de la maladie cœliaque. Je me souviens plus exactement du chiffre, mais quelqu'un qui a la maladie cœliaque, donc qui a une allergie au gluten, puis qui peut être détectée au niveau des intestins, au niveau des microvilles, s'il trichait, puis là, t'as caractérisé le tricher, là, c'était une fois par mois manger du gluten. Je pense qu'il augmentait ses chances de mortalité de 8 fois.
Aïe, aïe, c'est beaucoup. C'est énorme.
C'est énorme. Ouais. Quelqu'un qui va avoir une réaction auto-immune, puis c'est très, très difficile au Québec de faire les tests poussés. Il faut aller aux États-Unis là, pour vraiment faire les tests poussés pour voir si on a une intolérance à. Parce qu'il y a plein de peptides dans le blé, là. Il y en a pas juste, il y a pas juste le, tu sais, il y a pas juste la gliadine.
Oui, puis il y a blé, puis blé aussi. Il y a différentes cultures. Moi, je me souviens, les fois que je suis allée en Italie, j'en mangeais du gluten là-bas, puis généralement, j'avais aucun problème. Au Québec, c'est pas la même chose.
C'est ça. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que votre réaction immunitaire peut créer des anticorps. Juste en manger un petit bout de pain, là, ça peut créer une réaction immunitaire qui va durer 5 à 6, 7 mois. Puis là, s'il y a une réaction immunitaire, ça veut dire qu'il y a du dommage. Il y a toujours du dommage collatéral de cette réaction immunitaire-là au niveau des tissus dans votre corps. Donc, c'est pas banal de faire un écart quand on suit le régime hypotoxique. Puis Mme Lagacé le disait souvent, elle dit 80 % du régime, 20 % des résultats. Puis si vous faites le régime à moitié, vous n'aurez pas de résultats. Si vous n'avez pas de résultats, vous n'allez pas continuer. Donc, c'est pour ça que je trouve ça hyper important de mentionner. Donnez-vous la chance. Peut-être que vous n'êtes pas prêt tout de suite, mais si vous souffrez, sachez que c'est possible d'aller mieux. Puis essayez-le. C'est quoi 1 mois, 2 mois ou 6 mois dans votre vie? qui va changer peut-être le reste de votre vie, qui va vous donner une meilleure vie pour le reste de votre vie. Donc, tu sais, si après 3 mois ou 6 mois que vous le faites à 100%, vous me dites « Gabrielle, c'est pas pour moi », OK, au moins vous l'aurez essayé.
Ben, donner la chance, oui. Donner la chance que ça puisse nous aider ou nous faire du bien. Puis après ça aussi, il y a tout le côté personnalisé. Bon, dans le régime de Madame Lagacé, on peut manger du miel, du quinoa, du teff, donc tous les grains sans gluten. Mais il y en a qui ne les tolèrent pas non plus, ces grains-là.
Absolument.
Ils font partie du régime hypotoxique.
Absolument. Comme moi, je ne suis plus capable de manger du riz, probablement parce que j'ai trop compensé, puis mon corps, il a fait « OK, fini ». Mais… Je veux dire, je mange du millet, puis ça va. Puis, tu sais, le sarrasin, ça passe très bien pour moi. Donc, après, c'est ça. Chaque personne est différente. Puis je pense qu'il faut vraiment écouter notre corps. C'est super important.
OK. Si on met ça le plus simple possible pour les gens là, qui sont intéressés, qui ont mal, qui sont tannés, qui veulent faire un premier petit pas, on commence où?
J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Dans le fond, c'est sûr qu'on peut, tu sais, tranquillement faire le ménage dans notre garde-manger. Première okay. chose. Sucre raffiné, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est du poison, littéralement, le sucre blanc.
Parlons-en, ouais. Parce qu'on arrive, on est une nation de grands mangeurs de sucre. Ouais. Alors, parlons-en du sucre raffiné.
Sucre raffiné, ben c'est que ça en fait, c'est dépourvu de tous les minéraux, la fibre, c'est juste du sucre. Puis le sucre, on se rend compte, puis de plus en plus, il y a des documentaires là-dessus, on a tassé les gras en pensant que c'était eux qui étaient responsables des maladies cardiaques, de toutes sortes de maladies, le diabète, tout ça, on se rend compte que pas le gras par rapport au diabète, pardon, mais on se rend compte maintenant que l'inflammation au niveau des maladies cardiaques, puis bien des problèmes d'obésité, c'est pas le gras, c'est le sucre raffiné. Parce qu'en faisant ces changements-là, puis en conscientisant la population, arrêtez de manger du gras parce que ça vous fait grossir, parce que ça vous donne des maladies cardiaques, bien, finalement, on a encore plus de problèmes de maladies cardiaques, on a encore plus de diabète, on a encore plus de problèmes d'obésité. Je veux dire, pour la première fois depuis l'ère moderne, la nouvelle ère, que les enfants américains ont une espérance de vie moindre que leurs parents, c'est épouvantable. Ça veut dire que, oui, on a gagné en qualité de vie à plusieurs niveaux, mais là, on a passé le point où est-ce que on a une alimentation et un mode de vie hyper industrialisé, hyper dénaturé. Donc, le sucre raffiné, c'est à éviter. Et c'est une dépendance à créer.
Oui,
Montignac le disait, c'est la coke des pauvres. Il disait ça. Mais c'est vraiment, il faut tranquillement se défaire de ça. Puis moi, je veux dire, je mange des fruits, puis ça va super bien, mais donnez-moi pas des affaires pleines de sucre, ça va pas bien. C'est pas bon pour notre corps. Il n'est pas capable de gérer cette glycémie-là. Puis, il ne reconnaît pas l'aliment. C'est un aliment. En fait, on essaie, en alimentation anti-inflammatoire hypotoxique, puis dans plusieurs approches, on essaie de retourner à des aliments qui n'ont pas de liste d'ingrédients, qui ont.
Oui.
C'est un ingrédient. Mmh. Fait que, si vous mangez une pomme, ben c'est une pomme. Il n'y a rien d'autre, idéalement. À part si elle n'est peut-être pas bio, elle a peut-être plein d'autres affaires dessus. Ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'on retourne à des aliments que vous comprenez c'est quoi, que vous les voyez, vous savez c'est quoi. Si vous lisez les ingrédients puis les listes, vous n'êtes pas capable de comprendre c'est quoi qu'il y a dedans, bien, ça devrait vous allumer un petit peu des cloches.
Fait que, c'est mauvais signe, oui, ça part mal.
Exact.
Okay. Puis, quand on veut se faire des petites gâteries, bon, dans vos cours, il y a des desserts santé, les petits biscuits, les croustades aux pommes. Avec quoi on sucre le moins pire, mettons?
Bien, on peut prendre des sucres comme le sucre de canne brut, qu'on appelle ici le sucana, entre autres, à modération. Là. Ça va être un sucre qui va être juste le jus de canne à sucre séché.
OK.
Pas la cassonade. Là. La cassonade, ça, c'est du sucre raffiné qui a été coloré. On veut vraiment du sucana, exemple. J'aime beaucoup le sucre de cocotier, qui est réputé pour avoir un indice glycémique bas. Sinon, le sirop d'érable, c'est québécois. Des choses comme ça. Des dattes. Les dattes, c'est un fruit. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça, les desserts aussi. J'ai un cours complet sur les secrets du chocolat nu. Je veux dire, j'ai un cours de crème glacée végétalienne. Pour moi, c'était ça qui a été plus difficile à arrêter quand j'ai fait ma transition, arrêter de manger des produits laitiers, du gluten. Il y en a beaucoup, c'est le pain. Il y en a que c'est le fromage. Moi, c'était la crème glacée. Fait qu'il faut trouver des options.
Et vous avez été créative pour en créer et les partager.
Oui, ben oui. Moi, c'est une passion, la cuisine, pour moi. Je suis tout le temps en train de me demander ce que je vais manger ou ce que je vais cuisiner. Pour moi, c'est une passion. Quand j'avais mon restaurant, c'est ça, j'avais un bar laitier puis un côté chocolaterie aussi. Donc, pour moi, j'adorais ça, là, créer des desserts. Puis, faut pas avoir l'impression de se priver. Au contraire, faut se faire plaisir. Puis, l'alimentation anti-inflammatoire, tu sais, je veux dire, ça peut être vraiment bon de manger des aliments sains, de manger des aliments. Tu sais, moi, à chaque été, j'habite à Val-David, il y a le marché d'été de Val-David, qui est un des plus beaux marchés au Québec. Bien, j'y vais à chaque samedi. Je suis tellement émue de voir les producteurs, parce que moi, j'ai tellement pas le pouce vert, mais de pouvoir avoir ça à m'apporter, des fruits et des légumes bio, frais, qui ont poussé à côté de chez nous. Tu sais, c'est bon. C'est bon. C'est bien meilleur qu'une boîte de carton et une canne de conserve.
Oui, non, c'est vrai. C'est moins addictif, mais c'est meilleur pour le corps à tous les niveaux. Avez-vous encore votre restaurant?
Non. Thank God. Non, non. Pour ceux qui ont connu la restauration, ils vont comprendre que je suis contente de faire mon restaurant.
Oui, non, c'est beaucoup. OK. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur vous, comment je vais mettre tous les liens dans la présentation. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver?
J'ai un site web, c'est mon nom, gabriellesanson.com. Donc là-dessus, vous avez plein de sections. Vous pouvez aller voir, il y a des recettes gratuites, il y a des vidéos, il y a des témoignages d'étudiants, il y a des cours, évidemment. Le gros de mon travail, c'est d'enseigner en ligne. J'ai des coachings. J'ai un programme de coaching anti-inflammatoire en ligne qui s'appelle Alimentation vivante, alimentation consciente, qui est un programme étape par étape pour amener les gens à intégrer tranquillement, un pas à la fois, l'alimentation anti-inflammatoire à leur quotidien. Sinon, j'ai toutes sortes de cours adaptés à toutes sortes de besoins de goût. Pas besoin d'être malade pour faire mes cours. Vous aimez bien manger, puis si vous êtes gourmand, mes cours sont excellents. Sinon, c'est ça, j'ai une page Facebook que vous pouvez me retrouver là-dessus. C'est une bonne façon de voir ce que je fais dans le moment. Je partage là-dessus, puis j'ai une chaîne YouTube aussi.
OK. Combien de temps ça prend avant de voir la différence? Mettons, quelqu'un qui a mal, qui a souvent des migraines ou peu importe, là. Je sais que vous n'êtes pas médecin et qu'il n'y a pas de recette pour personne, là, mais on essaye plus qu'une semaine. Là. Si on veut voir une différence, combien de temps ça prend?
Selon les témoignages, ça dépend vraiment, vraiment des gens. Tu sais, je parlais tout à l'heure du verre d'eau. Là. Ça dépend de votre intoxication, votre niveau d'intoxication, mais aussi votre capacité à votre corps de se nettoyer. Mais il y a des gens qui ont des résultats extraordinaire en une semaine, qui n'ont plus de douleur ou 80% de la douleur est disparue. Puis il y a des gens, ça va prendre 9 mois. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Puis, mais les témoignages sont incroyables. Dans mon groupe de coaching, je veux dire, des fois, j'en pleure de voir des gens qui me disaient, Gabriel, j'étais au lit, j'avais des idées suicidaires, j'avais tellement mal, ma vie, j'avais plus de but dans vie, j'étais plus capable de faire de projets, j'étais plus capable. Ou des gens qui je veux dire, j'ai une étudiante, quand j'ai vu son témoignage, parce qu'ils sont sur mon site web, vous irez voir dans la section témoignages vidéo, mais je veux dire, elle mangeait pas dans la journée parce qu'elle avait des problèmes intestinaux. Toute la journée, elle mangeait pas par peur au travail d'être mal prise puis d'être. Donc, tu sais, des gens qui accommodent leur vie autour du fait qu'ils sont pas bien. Puis, il y en a plein de monde comme ça. Je veux dire, les problèmes intestinaux, colon irritable, c'est plus. Il y en a plus que des problèmes de diabète, là, puis on parle bien plus de diabète. Mais je veux dire, quand j'étais dans la vingtaine, j'avais une amie avec qui j'ai voyagé, puis je me souviens, on prenait l'autobus, puis on avait comme 2 jours d'autobus à faire. Puis elle mangeait pas, puis j'ai dit, voyons, pourquoi tu manges pas, là? Je ne comprenais pas pourquoi elle mangeait pas, jusqu'à temps qu'elle me dise, ben si je mange, ben je peux être mal pris. Puis pour moi, j'étais comme, hein? Mais c'est la réalité de milliers de personnes,
oui. Ça.
Et on n'en parle pas. C'est gênant de dire, ben, tu sais, parce que quelqu'un qui a le colon irritable, ben, il rentre dans un restaurant, il spot son haut les toilettes, il va proche des toilettes. Je veux dire, donc, si ça peut être réglé, je veux dire, le taux de rémission colon irritable, la maladie de Crohn du docteur Seignalet dans ses expériences avec ses clients, c'était de 98-99%. C'est énorme!
C'est énorme! C'est incroyable! Énorme. Ça change des vies!
Ça change des vies! Puis en général, son taux de rémission, c'est 80%. C'est bien plus que les médicaments. Puis de toute façon, les médicaments, on le sait, la médecine, c'est fantastique, la médecine moderne. Mais il n'y a aucun médicament qui guérit les maladies d'inflammation chronique.
Non, effectivement. C'est presque tout est lié au style de vie.
Exact. Puis, tu sais, on peut. Moi, ça me fait, excusez-moi, capoter là, quand le monde dit ça n'a pas rapport ce qu'on mange, parce qu'il dit ah, mon médecin ou mon psy m'a dit que ça n'a pas rapport. Je veux dire, ça ne peut pas avoir rapport. Ce qu'on mange, c'est notre carburant et c'est les blocs constructeurs de nos cellules. En quoi ça a tout rapport? Excusez-moi, je m'emporte un peu, mais je suis vraiment passionnée, mais c'est comme. Je veux dire, ça a tout rapport. On ne peut pas s'attendre à manger des sacs de chips, boire de la liqueur, puis penser être en santé.
Tu
sais, puis c'est vraiment triste. J'ai hâte que ça change, qu'on ait plus une approche santé qu'une approche maladie. Dans la population générale, de dire, bon, tu sais, même notre carte d'assurance, c'est une carte d'assurance maladie. On est. C'est pas une carte d'assurance santé.
Oui. Tout à fait d'accord avec vous. Bon, bien, c'est bien intéressant, c'est fascinant tout ça. Ben, bravo, félicitations pour votre travail. C'est vraiment important. Puis, bien, merci d'avoir accepté puis d'avoir partagé vos connaissances. Puis, je vais mettre les liens pour que les gens puissent vous retrouver.
C'est super. Merci de m'avoir invité. Puis, je pense merci. Que c'est ça. Le mieux à faire, c'est. Si des gens font des transitions, c'est de partager comme vous le faites au plus grand nombre possible parce qu'il faut que le message passe qu'on peut aller mieux grâce à l'alimentation.
Oui, on peut aller mieux, tout à fait. Merci.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!